Soigny. Toute cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Laurence Parisot. Ce soir, à la conquête du MEDEF.
Bonsoir Laurence Parisot.
Bonsoir.
On a évoqué lundi votre enfance, vos années de formation. Hier, vous nous avez raconté votre goût prononcé pour la politique, le métier de sondeur, l'arrivée précoce à la tête de l'IFOP. On est donc à la fin des années 90, au début des années 2000. Qu'est-ce que représente à cette époque pour vous le MEDEF, le syndicat patronal ?
Rien. C'est un acteur public qui émet des positions, mais je n'ai aucun lien avec le MEDEF. J'ai un lien, mais très ténu, avec mon syndicat professionnel. J'avais vu mon père être assez engagé dans son syndicat professionnel, celui de l'ameublement, mais de là à passer à une connaissance et un suivi du CNPF, puis ensuite du MEDEF, pas du tout.
Et pourtant, vous recevez un coup de fil d'Ernest-Antoine Sellière, qui est alors le président du MEDEF, pour rejoindre ce syndicat. Comment est-ce que vous recevez ce coup de fil ? D'abord, quelle est votre première réaction, Laurence Parisot ?
Alors, c'est très amusant. Mon assistante de l'époque me dit « J'ai reçu un message de Monsieur Sellière qui veut vous parler dans une heure. Est-ce que vous êtes disponible ?» Je lui dis oui. Et j'attends le coup de fil du président du MEDEF en étant persuadée qu'il allait me demander des explications sur tel ou tel sondage concernant son organisation ou l'entreprise en général. Et d'ailleurs, je me renseigne auprès de mes équipes et l'un d'entre eux me dit « Ah oui, ça doit être ça, on vient de faire une étude sur l'engagement des salariés à l'égard de l'entreprise. » Donc j'attends le coup de fil d'Ernest-Antoine Sellière de pied ferme avec l'étude sous les yeux pour éventuellement lui commenter.
Et c'est pas du tout ça qui vous demande.
Et non. Il me dit que une place vient de se libérer dans le quota qui est à sa disposition, le quota de personnalité qualifiée au sein du conseil exécutif du MEDEF, et il me demande est-ce que ça vous intéresserait. Et alors là, il se passe une chose stupéfiante, c'est que je réponds du tac au tac, oui. Ernest-Antoine Sellière n'en est toujours pas revenu parce que d'habitude, quand quelqu'un est sollicité pour rejoindre tel ou tel organisme, il est d'usage de dire « il faut que je réfléchisse ». Alors c'est souvent du cabotinage, si je puis dire, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, en tout cas entre Sellière et moi. Et donc, moi, j'ai réagi par pure curiosité, c'est-à-dire, on me proposait quelque chose, je dis oui parce que je veux voir.
Pourquoi il vous fait venir, d'après vous, Laurence Parisot ? Vous en avez discuté avec lui ?
Oui, j'ai su qu'il cherchait, à l'époque, une femme chef d'entreprise. Et on lui avait parlé de moi, on ne s'était jamais rencontrés, on lui avait parlé de moi, je crois, dans des milieux politiques, proches de l'entourage de Jacques Chirac, que je connaissais bien par ailleurs, et c'est comme ça que mon nom lui est arrivé aux oreilles.
On dit aussi que très vite, il a beaucoup apprécié chez vous votre feeling, votre sens de l'opinion. Évidemment, on est à une époque qui change, la communication devient importante aussi pour le MEDEF.
C'est vrai, je pense qu'il a compris qu'à l'époque, il était en difficulté d'image, lui-même personnellement et le MEDEF, et donc quelqu'un qui pouvait lui apporter d'abord une image différente, puisque j'étais une femme, jeune chef d'entreprise, et en plus une analyse des mouvements d'opinion, une capacité à déceler ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui change, ce qui est statique. C'était quelque chose qui pouvait lui être utile.
Alors vous arrivez évidemment dans ce lieu de pouvoir, rempli, je caricature à peine, d'hommes en costume gris, fumant le cigare. Vous détonnez évidemment, Laurence Parisot. Ça vous est presque reproché ?
C'était très surprenant, en tout cas, pour tous ces hommes et pour moi-même. C'est une ambiance...
C'est messieurs, je crois que c'est l'expression que vous employez.
Oui, alors ça, c'est une expression que j'utilise plus tard pour effectivement les critiquer et dénoncer leur façon d'être uniquement entre eux. comme dans un vieux club anglais interdit aux femmes. Et c'est une ambiance qui est à la fois très sympathique, parce qu'ils s'apprécient beaucoup, donc il y a une convivialité naturelle, mais tout ça dans quelque chose de très fermé. Si quelqu'un entre dans ce cercle et ne le ressemble pas dans la pensée et quasi physiquement, ils sont désarçonnés. Donc c'est une entrée tout à fait étonnante et beaucoup se sont demandé pourquoi Ernest-Antoine Sellière avait favorisé mon entrée au conseil exécutif.
Je dis ça parce qu'on a beaucoup parlé, Laurence Parisot, à votre arrivée, de vos tenues, votre célèbre coupe de cheveux court, à la garçonne, comme on dit, la couleur vive de vos écharpes. On a le sentiment qu'on vous renvoie assez rapidement à une apparence, à votre féminité. Vous éprouvez aussi ce qu'on pourrait appeler la domination masculine à la suite de Pierre Bourdieu, ce contrôle finalement social qui s'exerce aussi sur les corps et que vous allez essayer de transformer, de fracasser.
Oui, alors c'est à peu près à la même époque, enfin peut-être un petit peu avant, que je commence à mieux repérer la misogynie. Et évidemment, au MEDEF, ou dans ce milieu plus général, c'est au-delà du MEDEF, c'est vrai aussi pour tous les interlocuteurs du MEDEF, je commence à identifier ces comportements qui sont tout simplement des formes de racisme. Par exemple, une réunion au MEDEF, une quinzaine d'hommes, la seule femme, je prends la parole et ce que je dis n'est même pas relevé. Et puis 20 minutes après, je m'aperçois que un des hommes présents dans cette réunion reprend ce que j'ai dit plus maladroitement et à ce moment-là, tout le monde adhère à ses propos. Ça, c'est typique de ces attitudes misogynes que je commence à voir plus facilement. Et une fois que vous comprenez que ces réactions relèvent de cette forme de racisme qu'est la misogynie, vous êtes beaucoup plus à même de les combattre, de les dénoncer, parfois très gentiment, hein, parfois avec un peu de moquerie ou de l'humour plutôt, mais tout à fait respectueusement. Et du coup, ces milieux-là ne sont plus du tout effrayants.
Est-ce que ça devient un moteur, Laurence Parisot, ou est-ce que c'est annexe finalement cette nécessité de combattre la misogynie?
Ah non, c'est fondamental. C'est pas du tout annexe. C'est fondamental à l'intérieur du MEDEF et à l'intérieur de la société tout entière. La misogynie est plus grande aujourd'hui qu'il y a 20 ans, j'en suis persuadée. Déjà au MEDEF, à cette époque-là, elle existait. Quoique, parce que le grand paradoxe de tout cela, c'est que ma désignation à la tête du MEDEF s'est fait à travers une élection, un processus démocratique, et le patronat, les chefs d'entreprise de l'époque, choisissent d'élire une femme.
On va y venir, évidemment.
Donc, il y a à la fois de la misogynie, et puis à la fois l'intelligence de comprendre que ça fait du bien qu'il y ait aussi des femmes. C'est aussi un apport différent. Donc, cette idée-là, que la mixité dans les différents milieux de la société française, la richesse, elle vient de la présence conjuguée d'hommes et de femmes. Cette nécessité-là, il faut que tout le monde la comprenne, il faut que tout le monde la défende et que tout le monde la promeuve.
Le MEDEF est dominé, Laurence Parisot, par l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et par son emblématique et charismatique dirigeant Denis Gauthier-Sauvagnac. On reviendra dans un prochain épisode sur l'affaire de la caisse noire de l'UIMM qui vous a opposé, évidemment, quand vous étiez alors présidente du MEDEF. Mais pour l'heure, ce que j'aimerais souligner, c'est que cette importance de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, c'est une importance historique au MEDEF, mais qui ne correspond plus tout à fait à l'époque. Or, vous, vous arrivez en tant que représentante aussi du tertiaire. Le poids des industries décline en France, on le sait, celui des services augmente. C'est aussi ça que vous venez représenter au MEDEF.
Vous avez raison. C'est quelque chose qui est constamment oublié, aujourd'hui encore. Les créations d'emplois dans l'économie française depuis déjà deux décennies sont des créations d'emplois de services. Ça ne veut pas dire que l'industrie n'est pas fondamentale pour notre économie, pour le pays. Mais il y a une dynamique service qui n'est pas reconnue. Et à l'époque, quand je me présente à la présidence du MEDEF, beaucoup, beaucoup d'acteurs en souffraient. Et je représente le monde du service quand je suis candidate. Et en même temps, je suis fille d'industrielle. Et je dirais même que par certains aspects, je connais presque plus l'industrie parce que j'ai grandi à côté des machines et des ingénieurs de l'usine. Je connais presque plus l'industrie que la diversité des services. Mais j'incarne l'économie d'aujourd'hui.
Comment se passent vos débuts, Laurence Parisot, au MEDEF? Parce que quand vous arrivez, vous avez une expérience personnelle du dialogue social, vous l'avez rappelé dans un épisode précédent, en tant que patronne de l'IFOP, voilà, vous rencontrez les syndicats, mais vous n'êtes pas spécialiste, évidemment, des questions sociales, des subtilités et de l'extrême complexité, technicité des sujets qui occupent notamment le MEDEF. Quel est votre premier contact, finalement, avec cette question du dialogue social?
C'est les exposés de Denis Gauthier-Sauvagnac au Conseil exécutif, quand il fait des points sur les négociations, et le premier sujet qui me fait réagir, c'est quand il est annoncé par le négociateur de l'époque que, dans le cadre de la négociation sur l'assurance chômage, on va tout faire pour fermer le régime des intermittents du spectacle. Et là, je lève la main, je prends la parole et je dis mon désaccord absolu, car je considère et j'explique à ce moment-là que la culture est un domaine unique qu'on ne peut pas traiter comme les autres domaines d'activité économique. Et je me souviens tout le monde m'a regardé avec effroi. Je pense d'ailleurs que j'ai passé quelques minutes vraiment très désagréables, parce que prendre une position à l'intérieur du MEDEF en faveur des intermittents du spectacle, c'était inconcevable. Et je suis certaine que quelques membres du conseil exécutif se sont demandé à l'époque pourquoi Ernest-Antoine Sellière avait fait venir une gauchiste dans l'instance suprême du patronat français.
Ce serait bien la première fois qu'on vous qualifiera de gauchiste, peut-être, Laurence Parisot. Vous avez l'impression d'avoir occupé, finalement, dans cette assemblée du conseil exécutif du MEDEF, une position peut-être plus à gauche, qui n'est pas celle qui sera votre position publique ensuite, quand vous serez évidemment plus en vue.
Alors, j'ai toujours eu une position, en tout cas, plus à gauche, relativement à la position de certains, je dirais surtout plus centriste, plus modérée, plus ouverte.
L'arrivée au MEDEF, c'est aussi une façon de se rapprocher des lieux de décision, des lieux de pouvoir, lieux que vous fréquentez évidemment comme présidente de l'IFOP, puisque vous travaillez avec eux, mais peut-être pas avec le même type de relations, évidemment, Laurence Parisot. Vous rentrez donc au titre du MEDEF au Conseil économique et social, au Palais d'Iéna, qui est un lieu de délibération important dans la République. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous motive alors, qui vous intéresse? Comment est-ce que vous qualifieriez vos relations avec ces animaux un peu particuliers que sont les hommes et les femmes politiques?
Alors, j'ai beaucoup d'estime pour eux, quelle que soit leur sensibilité politique, extrême mise à part. Je ne dirais pas la même chose du Front National ou de certains éléments de l'extrême gauche. Mais c'est très dur d'être homme ou femme politique. Et ce n'est pas suffisamment dit. C'est une disponibilité à 100%. C'est la nécessité d'être compétent sur tous les sujets. Et c'est l'assurance d'être critiqué violemment, fréquemment. Donc c'est un métier très difficile et pour lequel j'ai de l'estime. Ça a été longtemps mes clients. Là, quand j'arrive au MEDEF, ça devient mes interlocuteurs. Je les regarde un tout petit peu différemment, mais c'est surtout eux qui me regardent très différemment. Et je pénètre plus profondément dans la fabrication de la décision politique en entrant au MEDEF. Je vois les processus très en amont. Et là, il y a eu des moments où j'ai été un peu consternée par le désordre dans la préparation de la décision politique.
Laurence Parisot, à un moment, le naturel reprend le pas et vous, vous décidez de vous relancer dans une aventure, un peu folle, puisque vous n'êtes pas une historique du MEDEF, vous ne représentez pas, une fédération importante. Et pourtant, naît chez vous la volonté, l'envie, le besoin peut-être de prendre la tête de cette organisation. Comment est-ce que vient cette décision? Vous vous en souvenez?
Oui, tout simplement parce que j'ai constaté que le MEDEF était un lieu de pouvoir, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire c'est un lieu qui contribue beaucoup à la décision publique. Et c'est un carrefour, c'est-à-dire que toutes les choses importantes passent à un moment ou à un autre par le MEDEF, que ça soit pour avis ou pour décision ou pour analyse. Si la France décide de négocier un traité de libre-échange avec tel pays, forcément, ça va passer à un moment ou à un autre par le MEDEF. Toute négociation sociale est concentrée dans les mains des équipes du MEDEF. Le jugement qui peut être émis sur une politique monétaire, une politique financière, une politique budgétaire est fabriqué et travaillé par des équipes au MEDEF. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, à ce moment-là, je vois les insuffisances du MEDEF. Je vois l'incapacité du MEDEF à se faire comprendre. Et c'est à la fois une incapacité, mais c'est aussi le fruit d'une arrogance. C'est-à-dire, on n'est pas compris. Eh bien, tant pis pour ceux qui ne sont pas compris. C'est aussi parfois la volonté de se placer en victime. Nous, les chefs d'entreprise, on est vraiment héroïques parce que on n'est pas compris et néanmoins on tient bon, on résiste. Bon. Et là, je trouve que c'est une folie d'avoir cette approche-là, qu'il faudrait être beaucoup plus ouvert et qu'il faut se rendre accessible à l'opinion et même aux politiques. Et là, je pense que moi, je peux aider à faire ça, je comprends ça. Et c'est comme ça, en voyant aussi l'offre de candidature, je me dis, et pourquoi pas moi? Et donc je vais un jour voir Ernest-Antoine Sellière, et je lui dis, voilà, si vous ne vous représentez pas, eh bien moi j'envisage d'être candidate.
Oui, une démarche étonnante, Laurence Parisot, une démarche de transparence. Vous allez voir les deux hommes forts du MEDEF, Ernest-Antoine Sellière et Denis Gauthier-Sauvagnac. Pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin d'avancer à découvert comme ça?
Oh, d'abord, c'est dans ma nature, c'est-à-dire que je peux être discrète, mais à un certain stade, je considère qu'il faut être transparente aussi et droite. Et puis, c'était, par correction qu'il fallait aller les voir. Alors, je vais voir d'abord Ernest-Antoine Sellière, qui est très surpris, qui ne s'y attendait pas et qui a une réaction géniale, qui tout d'un coup dit... Ah, mais alors vous pourriez être l'Angela Merkel du patronat français. Et puis Ernest-Antoine Sellière ajoute une phrase très drôle, typique de cet homme. Il dit « Ah, mais si vous étiez élu, l'avantage, c'est que ça ne se comparerait pas. » Sous-entendu, une femme ne pourrait pas être comparée à lui, Ernest-Antoine Sellière, l'homme, et donc pour sa succession, c'est pas mal. Je vais voir également le grand Manitou de l'UIMM, Denis Gauthier-Sauvagnac, qui, lui, me reçoit aimablement, mais avec un peu d'ironie, et me dit « Oui, c'est un peu tôt, tu ne connais pas encore assez le patronat, ça me semble difficile. »
Mais ça ne vous décourage pas. Loin de là, vous préparez votre campagne, comme d'habitude, avec une équipe réduite, un directeur de campagne, François Pérez, des conseillères pour la communication. Vous l'avez dit, c'est important, la communication. Marie-Noëlle Debré et Anne Maux, surtout la très introduite, très importante patronne de la société d'image, Image 7 pour la communication. Donc, voilà, un commando, une équipe réduite et vous y allez.
Oui, il faut dire que il y avait surtout une personne qui m'a beaucoup aidée, beaucoup soutenue dans les questions stratégiques et à certains moments tactiques, c'est Rose Laprelle, avec qui plus tard j'ai écrit un livre contre Marine Le Pen. Je pense que c'est ensemble, Rose Laprelle et moi-même, qui avons vraiment bâti l'essentiel. Mais j'avais effectivement une petite équipe de collaborateurs et on a bossé comme des fous. Enfin, c'était une campagne, une vraie campagne électorale. Et j'ai dû faire des dizaines de milliers de kilomètres à travers toute la France, ce que j'ai mais adoré. C'est quelque chose qui me manque, c'est-à-dire prendre tous les TER possibles et imaginables pour aller visiter des chefs d'entreprise. Ça correspond bien à mon esprit de conquête, finalement.
Oui, parce que quand vous vous présentez, il faut le dire à nos auditeurs, en 2005, c'est la première élection au MEDEF.
Avant, exactement.
C'était plutôt de la cooptation du consensus.
Voilà, c'est ça. C'était de la cooptation derrière des portes bien matelassées et bien insonorisées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qui se passait.
D'où votre choix d'aller voir les patrons dans les fédérations territoriales. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les patrons, à cette époque-là? Qu'est-ce que vous ressentez, vous qui connaissez bien, justement, qui avez une bonne faculté à analyser l'opinion, à synthétiser tout ça? Quelle est l'analyse que vous portez à l'époque, Laurence Parisot?
À l'époque, ils souffraient particulièrement de deux choses. Nous sommes encore sous le mandat de Jacques Chirac. Et même s'ils avaient de la sympathie pour le président de la République, ils avaient le sentiment d'avoir été totalement oubliés et que l'absence de vraie pensée économique à la tête du pays était devenue vraiment insupportable et très nocive pour leurs entreprises. Et puis il y avait une deuxième chose, c'est que l'image du MEDEF à l'époque était catastrophique avec des guignols de l'info qui représentaient le patronat sous un jour vraiment très 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 dur. Hein. C'était des tueurs. Et ça, les chefs d'entreprise étaient blessés par cette image. Donc ils voulaient à la fois une personne qui connaisse les milieux politiques pour pouvoir dire aux politiques, mais réagissez, la France est en train de décrocher, et puis une personne qui puisse faire évoluer le regard porté par l'opinion sur les chefs d'entreprise.
Alors votre campagne commence aussi, est marquée même, on peut dire, par un début un peu en fanfare, une phrase radicale qui vous a longtemps été rappelée, Laurence Parisot, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Vous regrettez cette phrase aujourd'hui? Vous
pas
pensez qu'elle dépassait...
Non, pas du tout, je pourrais... toujours la dire, même si je pense qu'il y a eu quelques évolutions positives sur le droit du travail. Mais le droit du travail est un tel fatras, le droit du travail est un labyrinthe, le droit du travail est une œuvre aujourd'hui qu'on peut vraiment qualifier de kafkaïenne, qui conduit à des impasses, à des impossibilités, à des apories, que effectivement ça ne permet pas de bien penser les choses, ça ne permet pas de travailler intelligemment, collectivement et efficacement. Ce que certains ont voulu dire en critiquant mon expression, c'est que voilà, je considérais que le droit du travail n'avait pas lieu d'être, et ont voulu tirer de cette phrase l'idée qu'il ne fallait pas de droit du travail du tout. Alors que c'est absolument pas ma conviction, comme je l'ai montré après, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les syndicats et qu'ensemble, nous avons établi des nouvelles normes sociales. Mais ce droit du travail est totalement illisible. Et quand vous ne pouvez pas lire quelque chose, vous ne pouvez pas bien l'appliquer.
Vous portez, Laurence Parisot, une idée lors de votre campagne pour un patronat du 21e siècle. C'est quoi un patron moderne dans votre esprit ?
C'est probablement un chef d'entreprise qui est beaucoup moins hiérarchique dans sa vision de son entreprise que ne l'ont été leurs ancêtres. C'est un chef d'entreprise qui sait parler, sait communiquer, sait faire partager ses soucis, ses contraintes, ses défis, ses challenges. C'est un chef d'entreprise qui est évidemment ouvert à la mondialisation, qui sait en tirer profit, qui sait aussi se mettre à l'abri des effets pervers de la mondialisation, parce que évidemment il y en a. Et c'est un chef d'entreprise, et ça pour moi c'est essentiel, qui est public et qui accepte d'être dans les médias, qui accepte de s'engager.
Évidemment, Laurence Parisot, on entend dans votre définition du patron moderne quelque chose qui est en effet dans l'air du temps, une approche un peu plus horizontale, qui dépasse d'ailleurs la question du patronat, quelque chose d'un peu plus horizontal. Pourtant, j'ai pu lire que quand il s'agissait de prendre une décision pour vous, quand vous êtes à la tête notamment de l'IFOP, il y a quelque chose d'assez vertical qui se passe. Est-ce que vous pensez que ces deux axes ils sont inséparables ?
Il me semble que toutes les décisions importantes que j'ai pu prendre, que ce soit à la tête du MEDEF ou à la tête de l'IFOP, ou même dans d'autres circonstances, ont toujours été amenées ou précédées d'une phase de délibération assez développée, assez intense. Je n'arrive pas à trouver une décision significative qui aurait été prise par moi, seule et du jour au lendemain. À la tête du MEDEF, tous ceux qui ont participé aux instances à l'époque pourront vous dire que je favorisais le débat comme aucun de mes prédécesseurs ne l'a fait.
Finalement, Laurence Parisot, juillet 2005 arrive, vous l'emportez, 53% des votes au premier tour, ce qui est peut-être bien pour vous parce qu'au deuxième tour, une alliance, le tout sauf Parisot, aurait pu se mettre en place. Quel est votre sentiment à ce moment-là ?
Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Mais je suis contente comme un sportif qui gagne sa finale. Je réfléchis pas encore vraiment à la suite. C'est d'abord la victoire qui me plaît. Voilà, j'ai gagné. C'est quelque chose que j'aime beaucoup concourir et puis essayer de gagner. Alors quand ça se finit bien, c'est vraiment formidable. Ce moment-là, je suis vraiment très heureuse.
Dans votre discours d'investiture, on peut dire, Laurence Parisot, vous faites au moins, vous commencez par deux promesses, réconcilier les patrons et la société. Ça, on a entendu pourquoi, mais peut-être dans l'euphorie, vous allez jusqu'à promettre de réconcilier la France avec l'économie de marché. C'est possible, ça ?
Oh oui. Et vous savez, la première université d'été du MEDEF que j'ai organisée ensuite, j'ai voulu inviter Danny Cohn-Bendit. Il est venu. Et je me souviens très bien de ce qu'il a dit à la tribune, là, devant les patrons du MEDEF. D'abord, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, Cohn-Bendit à la tribune du MEDEF. C'est quand même quelque chose. Et il dit, mais l'économie de marché, c'est plus un débat. Donc voilà, ça voulait dire que c'est effectivement plus un sujet. Il y a d'autres sujets aujourd'hui. Ce qu'on appelle la financiarisation, on peut parler des écarts faramineux entre les ultra-riches et tous les autres. Ça, c'est des vrais sujets d'aujourd'hui, mais l'économie de marché en tant que telle n'est plus un sujet.
Et le plus dur est à venir, Laurence Parisot. Il va falloir prendre la mesure de la tâche, des inimitiés. Évidemment, vous avez été élu contre le candidat notamment de l'UIMM et ça va laisser des traces. On en parlera évidemment demain en évoquant vos deux mandats à la tête du MEDEF. Merci Laurence Parisot.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Laurence Parisot. À Voigny, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.